Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marie de Ta Pensée A, qui est un compte Instagram et donc un collectif féministe hein, qui travaille à rendre visible la charge mentale de la femme en leur donnant la parole sur leur compte Instagram, en faisant l'analyse de leur charge mentale et en proposant bien évidemment des solutions. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées. Grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie, ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit avec une nana inspirante ou en solo, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, épanouissement, espoir, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu as un doute sur ton état de fatigue, ton état d'épuisement, si tu te poses la question est-ce que je suis en burn-out ou est-ce que je suis juste en fatigue passagère, je te recommande le test CBI, 19 questions qui prennent en compte tes relations avec les autres, ton état de fatigue, mais aussi ton état émotionnel. Et puis, en fonction de ta réponse, je t'enverrai par mail des actions adaptées à mettre en place le plus rapidement possible. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Coucou Marie, comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va très très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de la charge mentale. C'est un sujet qui a assez tendance, enfin ce qui est bien, on va dire, qui se démocratise. Les gens commencent un peu à comprendre ce que c'est la charge émotionnelle, la charge mentale, et on commence à se dire « Ah, peut-être que ça touche vachement les femmes quand même, et que ça peut expliquer le nombre de burn-out qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année, et ça, surtout depuis le Covid. » Mais tout d'abord, Marie, c'est le collectif « Ta pensée A ». Mais qu'est-ce que c'est que ce collectif ?
Alors, ce collectif, Ta Pensée A, c'est un compte Instagram avant tout et un collectif féministe qui donc travaille à rendre visible la charge mentale des femmes dans le couple et la famille hétérosexuelle. Et ce, en leur donnant la parole sur notre compte. C'est un compte de témoignage dont nous, en fait, toutes les semaines, on travaille à récolter, à analyser, à publier les témoignages de femmes autour des questions de la charge mentale, de leur comment elles le vivent au quotidien, quel est leur ressenti par rapport à ça. Comment elle gère les problèmes aussi. Mmh. Et voilà, et donc ce compte, il est géré collectivement. Du coup, on est deux sur derrière ça, moi et Mina, ma collègue. Donc le but, pour faire court, c'est de mettre vraiment en lumière la charge mentale finalement dans sa diversité. Et c'est non seulement un espace d'expression pour les femmes qui témoignent, mais aussi on veut, par l'accumulation des témoignages, entraîner une prise de conscience générale, disons, sensibiliser le grand public et faire prendre conscience que voilà, que la charge mentale, c'est un problème global, c'est pas un problème de quelques personnes.
J'ai un souvenir d'un compte, d'un post que vous avez mis il n'y a pas longtemps, où donc la dame, elle dit en gros, voilà, au boulot, j'avais plein de choses à faire, ensuite en rentrant à la maison, comme par hasard, il y avait plein de choses à faire, blablabla, et donc elle se focalisait beaucoup finalement sur les tâches qui s'accumulaient et puis l'imprévu. Et la dernière phrase de Ta Pensée A, c'est « Non mais le problème, c'est pas les tâches. Le problème, c'est qu'il n'en faut pas une. » C'est-à-dire qu'on se focalise sur le… On a beaucoup de choses à faire en pensant que c'est à nous absolument de tout faire et on ne se pose pas la question « Est-ce que c'est à moi de faire tout ça ?» et est-ce que c'est normal en fait qu'il n'y ait que moi qui fasse tout ça ?
En fait, oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est parce que les tâches, il y en aura toujours de toute façon. Là, en fait, ce qu'on veut mettre en lumière aussi et ce qui est vraiment problématique pour nous, c'est que ben, des tâches à la maison, il y en a tout le temps à faire. La charge mentale, il y en a dans un foyer. Il y en a et on peut pas la faire disparaître parce que il faudra toujours faire 3 repas par jour plus les enfants s'il y a des enfants, il faudra toujours faire le ménage quand même de temps en temps parce qu'on veut tous et toutes rester en bonne santé. Il faudra quand même faire les lessives parce qu'on veut pas aller au travail avec des habits sales. Il faudra faire tout ça en fait. Le problème c'est pas qu'il y a ça à faire et qu'on ait à le faire, c'est que il y a qu'une personne qui le fait et que l'autre prend pas sa part quoi.
Et du coup, si tu devais nous définir la charge mentale, ce serait quoi ?
Alors, la définition de la charge mentale, finalement, c'est l'ensemble des pensées qui sont dirigés vers la gestion et la planification de la vie domestique, du couple et de la famille. Donc la définition, c'est vraiment ça. C'est pas qui fait quoi dans le foyer, mais qui pense à quoi ou qui planifie quoi. Donc typiquement, faire une lessive, c'est pas de la charge mentale, c'est exécuter une tâche. Mais ce qui va être de la charge mentale, c'est de checker un peu partout si tout le monde, mon conjoint, mes enfants, etc., ont encore des chaussettes propres ou pas, et sinon de vite penser qu'il faut faire une lessive tout de suite, sinon il va y avoir
Et
un
même,
souci.
est-ce que j'ai de la lessive? Si j'en ai,
Est-ce que j'ai de
ok.
la lessive
Si j'en ai
aussi?
pas, faudrait que je pense à le mettre sur la liste de courses. Et une fois
C'est
que j'arrive
ça.
dans le magasin, bah, quelle lessive prendre? Attends, faut pas qu'elle soit trop chimique pour les enfants, pas pour trop l'environnement, blablabla. Mais en même temps, combien elle coûte? En fait, c'est toutes
C'est
ces.
ça. Et puis, quand est-ce que je vais la lancer et pour pouvoir être là quand je vais devoir l'étendre parce qu'il ne faut pas que le linge moisisse. Enfin,
Ouais,
bref,
exact.
voilà, tout ça, quoi.
Donc, ce n'est pas la tâche en elle-même en réalité, c'est tout ce qu'il y a autour et on n'y pense même pas. On ne va pas se dire que ça fait partie de ma liste, de ma to-do list. Et pourtant, c'est des pensées en fait, c'est tout dépenser, c'est tout ce qu'on doit prévoir. C'est un peu ce qu'on appelle les tâches invisibles ou c'est
Oui,
ça,
c'est
hein?
ça, c'est du travail invisible en fait finalement, et effectivement comme tu dis, hein, c'est pas du tout évident de, en fait c'est très compliqué à mesurer finalement
Oui.
cette charge mentale. C'est un flux de pensées continues
Exact.
qu'on a, et ouais, c'est difficile à quantifier, mais c'est indéniable que ça provoque beaucoup de fatigue
C'est clair.
et de stress, quoi.
Bah, il faut savoir qu'en fait, penser, hein, juste penser, réfléchir à quelque chose, surtout si c'est anxiogène, forcément ça va consommer autant d'énergie que si tu faisais la chose en vrai. C'est-à-dire que le cerveau, il va aller déstocker ce qu'il faut en cortisol et compagnie, et ça va t'épuiser, alors que toi, en réalité, tu fais que penser. C'est que dans ta tête. Et ça, j'arrête pas de le répéter. C'est que des pensées, mais ça bouffe de l'énergie et ça génère du stress. Donc, si on peut s'en passer, si on peut la partager avec quelqu'un, ça peut être sympa.
C'est
Pourquoi
ça.
la porter ça à 100% sur son dos? Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire la différence entre la charge mentale et la charge émotionnelle?
Oui, alors la charge émotionnelle, c'est en fait ouais, on pourrait les séparer en deux groupes. La charge mentale, bon, c'est vraiment un peu ce qu'on a dit. En fait, finalement, c'est très lié à ce qu'il y a à faire dans le foyer, à la planification, l'organisation des besoins du foyer. La charge émotionnelle, ça va être un peu plus spécifique. Ça va vraiment être le fait de prendre en compte et de s'ajuster aux besoins émotionnels de son entourage. Donc, par exemple, avoir des petites attentions pour sa famille, pour que ce soit le conjoint ou pas d'ailleurs, hein, pour ses proches, les écouter, faire preuve d'empathie, se dire, ah, si je suis en train de faire les courses, tiens, ce truc-là, il aime bien, donc je vais. Bon, c'est tout,
C'est tous ces
c'est
petits
ça,
trucs.
plus lié avec le bien-être, on va dire, émotionnel de l'entourage, quoi.
Et du coup, quand on revient à la période Covid, au final, on se dit c'est normal qu'il y ait eu plus de burn-out chez la dame, étant donné que le Covid avait mis une sorte de. Je pense que ça avait mis une pression supplémentaire pour la femme, je sais pas ce que tu en penses, en ce qui concerne toutes les précautions à mettre en place pour éviter déjà d'attraper le virus. Et une fois que tu étais contact, positif, blablabla, bah, tout ce qu'il fallait mettre en place à ce moment-là.
Tout à fait. Et puis même pendant le confinement, il y a eu un rapport d'ailleurs qui est sorti enfin, l'an dernier, il me semble, là-dessus, du Haut Conseil à l'égalité. Même en termes de charge mentale, le cas du télétravail, disons, ça a beaucoup. En fait, il y a eu beaucoup notamment de cas où les deux conjoints se continuaient à travailler, mais la femme était en général travaillée dans l'espace public, on va dire, enfin public de la maison, donc le salon ou la
Commun,
cuisine,
quoi.
l'espace commun, ouais, c'est ça. Alors que l'homme avait plutôt le privilège d'être dans la chambre parce qu'il faut qu'il soit tranquille, etc., etc. Donc forcément, quand c'est comme ça, d'autant plus s'il y a enfin, si c'est comme ça déjà, c'est toi qui vas faire les repas parce que tu es déjà dans l'espace commun, donc voilà, donc c'est toi qui l'as sous les yeux, donc c'est toi qui t'as les pensées. Et puis s'il y a des enfants, c'est toi qui vas être sollicité, quoi. Mécaniquement,
C'est juste
c'est
impossible, quoi.
ouais, c'est
Si tu
juste
es sur ton ordinateur et en même temps tu dois surveiller qu'à côté ça fasse ses devoirs, que ça fasse pas de bêtises. Et puis de toute façon, toi tu es là. Toi tu es là.
oui,
Donc
voilà,
on
t'es
va te
là, et
poser des
puis t'es
questions à
là, et
toi,
puis de
quoi.
toute façon, on a cette idée que la mère est toujours plus disponible.
Ouais.
Donc,
Ça vient
ouais.
d'où ça?
Ben ça, alors, je pense que ça vient de l'éducation, certes, mais aussi des représentations, en fait, en général, parce que l'éducation, c'est une chose, hein, on a tendance à reproduire les modèles avec lesquels on a grandi. Je dirais l'éducation de manière plus générale, parce que au final, même si on est élevé par des parents qui font attention à ces choses-là, pardon, on a quand même tout un tas de, on est quand même socialisé, voilà, avec nos pères, avec l'institution scolaire, avec après la pop culture, avec toutes les représentations qui sont véhiculées partout. Donc finalement, on baigne là-dedans, quoi. Et puis même au niveau professionnel, tu vois, le fait que les filles soient poussées vers certaines études que vers d'autres, ou les discriminations qui persistent encore dans le monde du travail. Une femme l'autre jour qui me disait que quand elle était employée, c'était ça. Si elle partait à 17 h pour aller chercher ses enfants, c'était ah bah ça va, cool,
Ouais.
tu pars tôt, etc. Alors que il faut bien que quelqu'un aille les chercher, quoi. Surtout si on n'a pas les moyens forcément de payer quelqu'un pour le faire à notre
En
place.
quoi c'est cool d'aller chercher des enfants? Pour celles qui ont des gamins et qui vont les chercher à l'école, il n'y a absolument rien de
Oui,
cool là-dedans, quoi. C'est du
c'est
boulot.
ça, exactement. Exactement. Mais donc, tout ça, finalement, ouais,
C'est des
ça joue,
représentations,
quoi, ça
c'est des
contribue.
idées qu'on se fait, et ne serait-ce que le congé maternité, le congé parental. Et en fait, non, il n'y a rien de congé là-dedans. C'est du boulot, c'est
Tout
du
à fait.
travail. Mais quand tu reviens d'un congé parental, les gens croient que tu es en train de te rouler les pouces pendant je ne sais pas combien de temps et que ça va, c'était cool. C'était
Ouais,
bien.
voilà, tu es à la maison, tranquille, quoi. Ouais.
Tranquillou. Et donc, ça fait finalement, t'es plus exposé à une sorte de type d'harcèlement au travail parce que tu es quand même maman, tu as des enfants. Mais le fait que tu prennes du temps pour des enfants qui aient du travail, ben c'est comme si tu étais une moins bien employée, que tu n'allais pas aussi vite que les autres, et donc tu risques en plus au boulot d'avoir des réprimandes ou des rappels, ou bref, que ça se passe pas super bien.
C'est ça. Et puis même que ça, tout simplement, que ça bloque l'avancement de ta
Oui,
carrière aussi, parce
ouais.
que si tu peux pas faire d'heures sup, ben ça peut empêcher ouais, un certain avancement, quoi. Alors que ben, pour les personnes qui peuvent ne pas s'en soucier, disons, qui ont ce privilège de ne pas s'en soucier, bon, dans tous les cas, je pense que le fait qu'on soit dans cette société patriarcale, finalement, bon, c'est hyper vieux déjà. Je sais pas si ça a toujours été comme ça ou pas. Ça, je sais. Même en fait, c'est pas. Je pense que c'est pas vraiment la question, parce que je pense que maintenant, c'est tellement. En fait, on baigne tellement dedans, et c'est tellement ancré que, quelque part, pour que le monde continue de tourner tel qu'il tourne actuellement. Il n'y a pas vraiment d'autre choix que de continuer à imposer ça aux femmes. Et donc, si on change les choses, les hommes vont perdre énormément de privilèges. Le privilège de ne pas avoir à se soucier de tout ça. Et puis, tout un tas d'autres privilèges qu'on connaît, hein, professionnels, de sécurité, etc., etc. Donc, je pense que maintenant, c'est oui, il y a vraiment un. Et il y a toujours eu d'ailleurs, mais il y a vraiment un espèce de frein à cette. À ce qu'on en parle, à ce qu'on essaie de trouver des solutions pour résoudre le problème, il y a une réticence, quoi, parce que on voit bien que si on change ces choses-là, il y a oui, les hommes vont perdre des privilèges
Ils vont
indéniablement.
devoir carburer plus, ils vont devoir mettre la main à la pâte et ils n'en ont pas envie tout simplement. Alors donc, ils
Oui.
deviennent des as de la manipulation. Et des fois, tu sais, je me dis, franchement, est-ce qu'ils font quelque chose? Moi, j'ai l'impression que c'est tellement perpétué par la télé, les magazines, l'éducation et tout ça que nous-mêmes, en fait, on se tire un peu une balle dans le pied ou on commence à prendre les choses en main. Et des fois, je me demande, est-ce qu'ils font des efforts pour qu'on reste dedans ou est-ce que nous, on est dedans et on a du mal à en sortir? Je sais pas, après, j'imagine que ça dépend des foyers, mais.
Ben, ouais, ça, franchement, je pense que ça dépend vraiment des foyers, mais je pense que, en fait, j'ai un peu du mal avec cette idée de, si tu veux, de dire, ah oui, on accepte de la difficulté, surtout avec le travail domestique, c'est qu'il faut bien le faire, de toute façon, surtout quand on a des enfants, je pense que c'est encore plus difficile de s'extraire de ça. Ouais, c'est pas comme le travail professionnel finalement. On pourrait dire, tu vois, bon, c'est dans un boulot qui te plaît pas, etc. Bon, on change. Oui. Alors, faut le réfléchir à des problèmes éventuellement financiers, etc. Est-ce qu'on peut se permettre et tout ça? Mais c'est possible puisque finalement c'est un boulot. Donc ça peut en tout cas
Se
être.
modifier, s'aménager,
Voilà, il
voilà.
y a des solutions en tout cas qui peuvent éventuellement être trouvées. Au niveau du travail domestique, ouais, c'est un peu un incontournable, quoi. S'il y a une tâche que j'ai pas faite au travail, par exemple, bon, au pire, je la fais demain. Oui, il y a des retards. Oui, je serai peut-être réprimandée, mais ça va pas changer la face du monde et va rien se passer. Mais au niveau des tâches domestiques, par exemple, surtout si j'ai des enfants, personne n'a pensé à racheter du lait et qu'il n'y en a pas et qu'il est déjà, je sais pas, 21 h, que tout est fermé, ben, on est quand même sur un autre niveau de soucis, quoi. Donc,
L'impact n'est pas le même, l'enjeu n'est pas le même. Et puis, il y
c'est
a tout
ça.
l'affect, quoi. Je veux dire, ton dossier, tu peux prendre du recul, mais chez toi, toi-même, tes enfants, non, tu vois, émotionnellement, c'est pas le même rapport.
Oui,
Donc,
ben oui, tout à fait.
tu lâches beaucoup moins l'affaire que si c'était un dossier ou même un patient au travail. Ce qui est
Et
un
puis on est
des.
dans une situation parfois enfin de dépendance même, parce que ce travail qu'on fait dans le foyer, ce travail domestique, c'est un travail qui n'est pas rémunéré. Et donc ce qu'on fait, et par exemple qu'on consacre ce temps, qu'on consacre au foyer, aux tâches domestiques, qu'on ne consacre pas à notre vie professionnelle, ben c'est un manque à gagner.
Et ne serait-ce que pour le bien-être. Je veux dire, déjà, oui, tu pourrais peut-être exploser dans ton milieu professionnel si tu as des objectifs bien précis et que la maison est un frein, ça t'empêche. Je dis pas que genre c'est rédhibitoire, mais ça peut, c'est un frein quoi qu'il arrive. Mais même pour ton bien-être, c'est-à-dire qu'à force d'être 100% dans les tâches et servir entre guillemets tout le monde, ben on s'oublie et on n'a même plus 5 minutes. Moi, c'est ce que je vois avec les filles que j'accompagne, mais c'est trop compliqué de placer 15 minutes par jour, ne serait-ce que pour respirer. Parce que tu comprends, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois. Oui, mais non. Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça. J'arrête pas de dire laver la vaisselle, faire les courses. T'as pas besoin d'un bac plus 20, t'as pas besoin d'avoir fait l'ENA. Enfin, t'as des pieds, des mains, une tête, une matière grise. Donc, tout le monde peut faire ça. C'est pas une obligation. T'es pas indispensable pour ce travail. C'est pas un savoir de fou. Et puis, tout s'apprend.
Ben oui, ben tout à fait.
Tout
Ben ça,
s'apprend.
c'est important justement, je pense, de le souligner, et puis de le souligner auprès des hommes surtout, qui y a en fait, je sais pas si tu connais le texte politique du travail domestique, The Politics of Housework de Pat Ménardi. Elle liste en fait toutes les bonnes excuses entre guillemets
Oui,
aux hommes pour
c'est bon,
pas
je
faire
vois. Je sais
pour
pas
pas faire
faire, j'y arrive pas.
Voilà, je sais pas faire, non, mais t'es plus douée que moi pour
Oui.
ci, pour ça. En fait, effectivement, enfin, de fait, oui, moi, je suis plus douée que mon mari pour faire certains trucs, mais parce que j'ai été socialisée comme ça, parce que mes parents m'ont appris ça, m'ont dit que c'était important de savoir le faire. Et ben lui,
Et parce
bah,
que je le fais
bon,
depuis
il
des
l'a pas
années, donc
appris.
même si
Et
j'étais
parce que
naze
voilà,
de
ça
chez naze, je finirais quand même
Exactement.
athlète,
Il y a
quoi,
les
dans ce
cibles, je
domaine.
connais les programmes parce que ça fait des années que je l'ai fait, donc, bah, finalement, finalement, c'est des trucs qui s'apprennent,
Ben oui.
et c'est simple. Et il n'y a pas
Oui.
besoin de, comme tu dis, effectivement, il n'y a pas besoin d'un bac plus 5 pour faire toutes ces choses, pour apprendre toutes ces choses. Donc,
Et je me dis, on n'a qu'à donner l'exemple, genre au boulot. Donc il y a toujours un travail d'équipe, même s'il y a des échelles et chacun son poste et tout ça, ça reste un travail d'équipe pour que ça roule. Et généralement, t'es pas contente quand ton collègue ne te ramène pas le boulot à l'heure ou il le fait pas correctement ou il oublie de le faire. Bref. T'estimes qu'il avait sa part de travail et qu'il ne l'a pas fait. Pourquoi on réfléchit pas pareil à la maison? Ça reste une équipe. Vous êtes deux. S'il y a des enfants, bah vous êtes deux à être responsables de ces enfants. Bah c'est une équipe. Alors, dis-lui, t'as pas fait ton travail, tout simplement. Tu vois, considère-le comme un collègue de travail au final quand il s'agit des tâches ménagères. Je sais pas ce que tu en penses de la métaphore. Moi, elle me semble pas
Oui,
plus
non,
loin.
je pense que c'est une bonne métaphore, mais effectivement, bah, pour renverser, pareil, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes et de ce qu'elles pourraient dire, etc., de ce qu'elles pourraient amener comme solution. Moi, je pense aussi, bah, que, bah, oui, les hommes, si vous êtes le collègue justement qui n'a pas rendu son travail à l'heure, vous considérez comme normal que quelqu'un vous dise quelque chose et que vous
Voilà.
réprimande ou que votre supérieur vous dise ça va pas, fais un effort. Et oui, ce serait normal et a priori personne ne trouvera rien à redire. Donc pourquoi, en termes de travail domestique, c'est toujours non, mais je suis fatiguée ou non, mais je sais pas faire, mais ceci, mais ce.
Va dire ça à ton boss, on verra.
Voilà, c'est ça. Là, faut. Ben ouais, que les hommes se responsabilisent à ce niveau-là, quoi. Et arrête d'attendre qu'on leur dise aussi, parce que c'est ça, la charge mentale, c'est d'y faire penser. C'est un des témoignages qu'on avait posté, qui était, pour moi, la charge mentale, c'est quand je demande à mon conjoint de faire une lessive demain
Bah
et qu'il me
oui.
répond, OK, tu m'y feras penser.
Oui, MDR.
Ben,
Ok.
c'est vital.
Oh ben je vais la faire quoi.
Je te le dis maintenant, mets-toi un rappel si tu as besoin d'un rappel et fais-le, quoi, et pense-y, parce que sinon, ouais, sinon, autant que je le fasse, en fait, ça c'est. Je pense qu'il y a, en fait, il y a cette prise de conscience-là à prendre, en fait, cette responsabilisation à faire du côté des hommes.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de prise de conscience par rapport à ça, et que on en parle plus, et que peut-être les femmes délèguent plus. Je sais, j'ai pas regardé des chiffres, mais j'ai l'impression que cette histoire d'inégalité, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, a quand même pris de l'ampleur.
Alors,
Mais
ouais, au niveau de la prise de conscience, je suis un peu mitigée sur la question, honnêtement, parce que par exemple, au niveau du. Bon, la charge mentale, on a dit que c'était compliqué à mesurer, puisque c'est un flux de pensée. Mais un truc qu'on sait très bien mesurer en France, c'est le temps passé sur les
Oui.
tâches domestiques. Ça, on a des chiffres très précis là-dessus. Et encore aujourd'hui, les femmes passent par jour 1h30 de plus que leur conjoint en moyenne, en couple
Énorme.
hétérosexuel. Hein, 1h30 de plus par jour que leur conjoint à s'occuper des tâches domestiques. Ça, c'est l'enquête emploi du temps de 2010. Je regardais la semaine dernière les chiffres. Alors, en France, on n'a pas d'enquête emploi du temps plus récente, mais par exemple, en Suisse, une enquête de 2019-2020 donne les mêmes chiffres, exactement. Donc, c'est. En fait, et puis même si tu regardes le rapport du Haut Conseil à l'égalité, au final, la conclusion de ce rapport-là, qui a été publié début 2023, c'est qu'il y a une prise de conscience un peu dans les discours, disons. Par exemple, le chiffre qui m'avait marqué, c'est qu'il y a que 9% d'hommes qui déclarent que c'est normal que les femmes fassent tout à la maison si leur conjoint travaille. Donc 9%, on pourrait se dire, OK, c'est pas beaucoup. Dans les comportements, en fait, ça ne suit pas, quoi. Même si en proportion, c'est peu, il y a beaucoup d'hommes qui disent que non, c'est pas normal. Il faudrait défaire cette répartition genrée du travail domestique, travail rémunéré. Mais dans les comportements, en fait, ça suit pas puisque ces chiffres sur la répartition du travail domestique n'ont pas évolué, en fait, finalement, depuis des années. Voilà. Après, c'est quand même la prise de conscience. En fait, je sais pas si une prise de conscience vraiment dans les faits, c'est surtout, je pense, ça fait, c'est pas bien de se déclarer,
Autrement, ouais, genre c'est
de
bien.
dire autre chose, quoi.
Ok, en gros, le gars, il avait pas trop le
Tu
choix.
vois? Ben, je pense qu'il y a un peu ça aussi. Bon, d'un côté, c'est quand même positif dans la mesure où, ben, justement, il y
Veut
a
dire
quand
que
même
ça change.
un petit changement de valeur. On peut se dire, OK, bon, les hommes commencent à, voilà, se dire que c'est bien de se revendiquer féministe
Oui.
ou même pour une meilleure répartition du travail domestique. Mais bon, là, on attend que maintenant que le comportement suive, quoi.
Exact. Je ne sais pas du coup si... Parce que oui, on revient toujours à ce fameux... ce que la femme doit lâcher et ce que la femme doit dire. Moi, personnellement, quand je les accompagne, sincèrement, on démarre tellement de loin que on commence par la communication, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas dans ta tête, tu dois dire les choses. Sinon, tant que... J'ai un autre souci, quoi. C'est que si elles sont toujours en attente, est-ce que la personne... se responsabilise toute seule dans son coin, mais moi j'ai l'impression que ça viendra jamais. Donc, je dis plutôt, tu annonces les choses, tu planifies, tu expliques, tu annonces les choses, tu dis les choses, n'attends pas à ce que ça se fasse tout seul. Mais oui, est-ce que c'est la bonne solution de toujours être cette personne qui fait le travail, qui refait le travail? Tu as l'impression que ça se termine jamais, quoi.
Et puis c'est une charge en plus, quoi.
Ben oui.
C'est une charge en plus de se dire, bon, OK, je vais faire un agenda partagé, comme ça, il y aura les notifs, etc. Honnêtement, est-ce que ça sert Enfin, nous, on a énormément de témoignages justement de femmes qui font ça, qui essaient de faire cet effort-là, disent au final, bah maintenant je le fais plus parce que c'est tellement d'efforts pour rien que. Donc moi, je pense que, enfin, la communication de toute façon est hyper importante. Je pense qu'il faut exprimer ses besoins, exprimer, voilà, et en tout cas. Pour commencer, je pense que c'est bien de le faire, de dire, OK, on prend une heure là ensemble, on planifie, moi je m'engage sur ça, toi tu t'engages sur ça, chacun son truc, maintenant, OK, ça je m'en occupe plus, c'est toi qui le fais. Et puis d'essayer de donner une chance à ça, évidemment. Mais je pense aussi que un truc hyper important, c'est qu'il faut que de l'autre côté, il y ait une écoute active et empathique. Parce que, en fait, nous, dans les témoignages qu'on reçoit, ça revient énormément. Le fait que, ouais, j'en parle, mais il me dit oui, tu vois, c'est pour eux, c'est
Comme
pas
si tu
un
parlais à un
problème, quoi.
mur, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Ou alors, ça va changer pendant 2 jours, et puis après, non. Ou alors, et puis il va me dire non, mais t'en fais des caisses pour pas grand-chose. C'est toi qui te crées des problèmes. La charge mentale, ça n'existe pas, c'est un truc de féministe. Bref, hein, tu vois, c'est. En fait, c'est ça qui manque beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui. Il y a beaucoup de femmes qui nous envoient des messages pour nous dire ben, merci pour votre compte parce que je sens que.
Je suis pas seule au monde, quoi.
Et puis, je me sens écoutée, en fait. Écoutée et comprise. Et je sens que ouais, que c'est légitime, en fait, de me plaindre pour ça. Enfin, de me plaindre, c'est même pas une plainte parce que des fois, on est épuisé par ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est je pense que ce qui est hyper important, alors la communication, certes, mais qu'il y ait une écoute de l'autre côté, une écoute empathique et sans remettre en cause le ressenti, parce que je peux exprimer tout le ressenti du monde. Si en face, mon conjoint trouve que c'est pas un ressenti légitime et que c'est entre guillemets pas grave et que je me stresse trop pour rien, ben ça va rien changer finalement. Il va juste se dire que je suis ultra stressée pour rien. Donc.
Ouais. Moi, je leur dis à ce moment-là de répondre, en fait, c'est mon ressenti, c'est pas à toi de me dire si c'est grave, pas grave, stress, pas stress, je te dis ce que je ressens, tu le prends tel quel et tu t'adaptes, en fait. Tu me dis pas ce que je dois ressentir et qu'est-ce qui doit être stressant pour moi ou non, et qu'est-ce qui doit être épuisant pour moi ou non, 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 c'est
Ouais,
mon
c'est ça,
ressenti
il
à
faut
moi, c'est mon
que.
vécu à moi, je te le dis, je te demande pas ton avis, en fait, je te le dis. Donc, vas-y, fais ce que tu as à faire parce que moi, je veux plus être dans cet état-là. Parce que non, non, la charge mentale, c'est tout sauf un truc de bonne femme. Moi, celle que je récupère en burn-out, c'est surtout et beaucoup d'absence de soutien à la maison. C'est-à-dire que même si le burn-out, il démarre dans le milieu professionnel parce que harcèlement, parce que mise au placard, parce que surcharge, tu vois, enfin bref, les causes, il y en a plein. Il n'empêche que quand elles arrivent à la maison, elles doivent se taper la deuxième journée et ça ne peut que aggraver finalement le stress, la fatigue. Et non, le stress et la fatigue, ça a un impact sur l'état de santé mentale et physique. C'est pas anodin, c'est à prendre au sérieux. Et donc dans la communication, on n'y va pas en mode ah oh, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien parce que je vais pas bien. Non, non, je te dis comment elles sont les choses et tu les acceptes en fait. Je te demande pas ton avis, mais par contre, je te demande de mettre la main à la pâte. Et ça, c'est beaucoup d'estime de soi. C'est beaucoup d'assurance. Et c'est ce qu'on bosse généralement, c'est de se sentir légitime, comme tu dis. De se sentir légitime de dire que ça ne va pas. Et c'est mon ressenti. Et j'ai le droit de me sentir comme ça. Et c'est normal. Je ne suis pas folle. Tout ça, c'est un travail de soi, en fait. J'allais dire, faut prendre ses cojones, mais non. Mais il faut se blinder. Faut se blinder. C'est un travail qui se fait en interne pour se sentir assez capable d'affronter, finalement. Moi, je vois ça comme de la confrontation.
Je pense qu'il y a des personnes qui vont un peu trop, si tu veux, un peu pas trop loin là-dedans, mais qui vont, disons, qui se focalisent uniquement là-dessus, en se disant c'est un problème de confiance en soi, c'est un problème de mauvaise communication, etc. Mais la communication, ça marche aussi dans les deux sens. Donc je pense que évidemment, c'est bien de travailler sur la communication non violente. Et bien évidemment, c'est bien de travailler sur tout ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi que voilà que les conjoints, que les pères travaillent leur écoute empathique
ouais.
et active.
C'est que, si tu veux, non mais j'ai compris hein, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas que notre boulot à nous, pas du tout. Ça, c'est clair qu'il y a deux personnes qui sont impliquées, il y a deux genres qui sont impliqués, donc les deux doivent prendre leurs responsabilités, mais c'est pas la même responsabilité. Il y en a un, il doit juste se sortir les doigts des fesses, et la deuxième, c'est de comprendre que c'est pas sa responsabilité à 100% de devoir s'occuper de tout le temps. Donc, bien évidemment que c'est un travail de deux personnes. Là où ça va bloquer, c'est que toi, t'as pas l'impact sur l'autre. Enfin, je veux dire, tu peux pas venir modifier l'autre. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à
Tu
fait.
peux pas venir obliger l'écoute active.
Oui, tu peux pas l'obliger. C'est justement le problème. C'est justement pour ça. Il faut, je pense que, on continue après à faire toutes ces sensibilisations, etc. Mais ouais, il faut que les hommes, je sais pas, faut que dans nos représentations aussi, on est plus, on mette plus en avant l'empathie comme un truc pas juste de femme, quoi.
En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une sorte de... Il y a un truc, ça ne dépend pas de nous. Ça va être, encore une fois, les codes sociaux. En fait, c'est les codes sociaux qui doivent changer. Du coup, il faut qu'on change un peu ce qui se dit dans les médias, dans la télé, dans les magazines. Et ça, c'est pas... Enfin, ça, si tu bosses dedans, je ne vois pas comment tu peux faire genre... Maintenant, l'homme, il se dit, attends, si je pense autrement, c'est pas normal, c'est mal vu. Donc, je vais donner la bonne réponse. Ça, c'est un signe que finalement, tous les débats qu'il y a et toutes les manifs et voilà, toute cette sensibilisation n'empêche de ta pensée, ah, vous avez quand même une grande communauté. Tout ce travail fait qu'il y a les mentalités qui changent. C'est juste qu'elles changent vitesse d'escargot, quoi. Ça change tout petit, mais ça change. Donc ça, c'est la partie où nous, on n'a pas d'impact. C'est plutôt des groupes, j'ai l'impression. C'est un travail collectif. Et c'est un groupe via tous les médias, via tous les écrans qui vont changer cette mentalité, qui va peut-être rentrer dans la tête des hommes et surtout la nouvelle génération qui dit que, en fait, oui, je dois être plus empathique, plus bienveillant et à l'écoute et comprendre que c'est aussi mon travail. Là, c'est le parent qui va rentrer en compte. Par exemple, moi, j'ai des enfants, une fille et un garçon, c'est mon travail que de les éduquer tout pareil, de tout leur proposer en même temps et d'éviter comme ça de genrer dès maintenant et de mettre mon fils ici, ma fille là, et d'assister mon fils et pas ma fille. Tu vois, c'est mon rôle, enfin c'est notre rôle à nous deux, de donner cette nouvelle éducation pour insérer cette mentalité d'écoute active et tout ça et tout ça. Mais en attendant,
je suis assez d'accord hein, finalement. Au niveau individuel, une fois que l'étape communication l'appel à la bonne volonté de l'autre, du conjoint est passé, si ça fonctionne pas, si ça fonctionne très bien, si ça fonctionne pas, c'est compliqué. Ça peut être la confrontation, comme tu dis, ça peut être aussi, tout simplement, le traiter comme un collègue, hein, finalement. Il y a aussi tout cet effort de faire prendre conscience à l'autre. Effectivement, si l'autre ne veut pas prendre conscience, il ne veut pas, quoi.
Ah, tu tapes dans un mur.
Il y a des femmes qui quittent leur conjoint pour ça. On a pas mal de témoignages comme ça aussi.
Et franchement, ouais. C'est une solution à prendre en compte. Hein. Je ne sais pas... peut-être que ça peut paraître fataliste ou je sais pas quoi, mais des fois c'est une réalité. Je veux dire, est-ce que oui, ça vaut la peine de rester dans un couple où t'es malheureuse, où tu t'occupes de tout et tu détestes ta vie? Peut-être que quitter le couple peut être la solution. Tout dépend. En fait, c'est des niveaux. Blablabla, blablabla, bla, ça rentre dans la tête, c'est cool. Ça rentre pas dans la tête, je passe en confrontation. Et si tu vois que c'est trop pas possible et que tu parles à un mur et que toi ça t'impacte quotidiennement et que tu es à ça de la dépression, bien sûr que tu quittes. Enfin, moi, j'ai pas de souci à dire aux gens, mais barrez-vous des milieux hostiles. Pourquoi ?
Oui, tout à fait. On en revient toujours. C'est vrai qu'il y a des situations où c'est pas forcément facile, notamment si on est dans des situations de dépendance financière.
Ouais, surtout ça, ouais.
Et qu'en plus, il y a des enfants, c'est pas forcément simple. Mais bon, c'est une solution, en tout cas, à prendre en compte. Évidemment, c'est pas
en tout cas, ça se fait. Sincèrement, ça se fait. Hein. Il y en a qui ont réussi à le faire, même si c'était des femmes au foyer et qu'elles avaient beaucoup d'enfants. Voilà, ça se fait parce que j'imagine, vu leur quotidien, toutes les galères à venir étaient plus supportables, en fait, que de rester dans le foyer. Donc, ça a dosé. Il n'y a pas de science exacte, au final. Hein. C'est à doser. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune raison de subir sa vie. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucune raison d'être au bout de sa life parce que... Bah parce que personne ne fait son travail, enfin bref, que tu te retrouves toute seule à tout faire, il n'y a pas de raison. C'est écrit nulle part et on ne vous le recommande absolument pas. Dis-moi, comment fonctionne le collectif Ta Pensée A ? Où est-ce que vous intervenez ? Comment on fait appel à vous ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, nous, bon, nos actions principales, c'est le compte Instagram, hein, essentiellement, mais on intervient aussi, effectivement, ça peut être dans des festivals ou en universitaire ou en entreprise. Pour faire appel à nous, selon nos disponibilités, il y a éventuellement une personne du collectif qui pourra intervenir. Pour faire appel à nous, c'est par mail, c'est tapensea.collectif@gmail.com. C'est ça.
Donc même dans les écoles au final.
Pourquoi pas. On n'a pas trop.
Faut commencer au berceau, hein.
C'est ça, effectivement. Mais oui, tout à fait. Nous, pour l'instant, c'est vrai que on a plutôt des requêtes du côté entreprise ou université ou des événements même organisés par les municipalités, par exemple. Ça arrive aussi, mais après, pourquoi pas.
Non, mais tu vois, s'il y a des profs, par exemple, qui nous écoutent, bah, proposer une intervention.
Ouais, tout à fait, proposer, envoyez-nous un mail, et ouais, avec plaisir.
Dis-moi, pour clôturer cet épisode, qu'est-ce que tu dirais à une femme, du coup, qui nous écoute et qui est comme ça en épuisement et en mal-être, bon, certes, hein, liée à la surcharge de tâches domestiques, mais... Vraiment, ce fameux burn-in, burn-out, qu'est-ce que tu lui conseillerais ?
Alors, moi déjà, je voudrais lui dire, comme on l'a dit déjà avant, mais que si c'est votre situation, vous n'êtes pas seul et ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de ça, en fait. Si vous avez tout ce poids-là, c'est malgré tout ce qu'on peut dire sur l'organisation, ceci, cela, c'est avant tout parce que votre conjoint ne fait pas sa part. Donc déjà, et vous n'êtes pas du tout seul dans ce cas, on est énormément dans ce cas. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, c'est pas de votre faute. Et oui, et si vous en avez la possibilité, vous faire accompagner ou trouver une personne dans votre entourage qui va pouvoir vous soutenir. Si c'est pas votre conjoint, si c'est lui, tant mieux. Et sinon, une autre personne dans votre entourage qui pourra vous écouter et vous comprendre.
Exact. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas, Ta Pensée A, le compte Instagram qui publie quand même pas mal de témoignages. Ça permet de se sentir moins seul. Et puis, l'analyse, elle est toujours à prendre. Donc, je vous recommande, je mettrai bien évidemment le lien sur le descriptif. Voilà, encore un épisode politique, mais mesdames, le burn-out est politique et plus vite vous en prenez conscience et plus vite vous ferez la paix avec ce mot et plus vite vous serez actrice de vos vies. Parce que comme on l'a dit dans le podcast, on peut attendre que les hommes prennent leurs responsabilités, mais en attendant, il faut bien qu'on se préserve, qu'on se protège et qu'on prenne notre vie en main. Et pour ça... Il n'y a pas de secret, il faut se blinder, gonfler ses poumons, bien ouvrir son thorax et yallah, comme on dit chez nous. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, tu peux partager ce podcast partout autour de toi, ça servira toujours une personne et ça permettra aussi de le faire vivre. Si tu veux échanger sur cet épisode, je te donne rendez-vous en message privé sur Instagram ou alors sur mon canal Telegram privé pour éviter les réseaux sociaux. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.